I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Écoutez, on va sans plus tarder, parce que ce fut long et que nous avons faim, hein, il faut pas oublier
on va se faire un sandwich
espagnol. Un sandwich espagnol, parce qu'on sait très bien que le sandwich est espagnol maintenant.
Bien sûr.
Ben, on va passer à la question de la semaine pour la bande-annonce. Et la question de cette semaine, c'est pour vous, quelle est la pire suite de jeux vidéo, Corentin?
C'était dur comme question. Pourquoi c'était dur? J'ai pas de jeu comme ça qui vraiment. Ça c'est la pire suite. Enfin, à titre personnel, parce que souvent quand je sais qu'une suite n'est pas bonne, si j'ai pas à la tester, je n'y joue pas, tout ouais. simplement.
Mais t'as pas un jeu où t'avais attendu?
J'ai cherché. Ouais. Alors j'ai attendu SF5, Street Fighter 5 m'a vraiment déçu. Mais au fond, c'est pas un mauvais jeu. C'est juste qu'il y a eu des choix un peu moins bons. Mais dans le fond, c'est pas un mauvais jeu. Star Fox Zero, je l'ai pas trouvé dingo. Mais après, je l'ai bien aimé quand même.
Ah, il a ses qualités.
Il y a quand même un jeu qui m'a énervé. À défaut d'être mauvais et à défaut d'être pire. Mais je pense quand même qu'il est pas très bon. C'est Metal Gear Solid 4.
Ok.
À titre personnel, de 2008, donc sur PS3, qui devait être un peu l'apothéose finalement de toute la saga Metal Gear, qui est quand même une saga aux embranchements scénaristiques extrêmement tentaculaires, incompréhensibles. Et Metal Gear Solid 4 s'était donné comme mission de tout raccrocher les wagons dans un seul jeu. Mauvaise idée, à mon sens. Le jeu a de vrais bons moments, de vrais bons passages, mais il est miné par un rythme aux fraises. Il a quand même de très longues cinématiques. Mais vraiment, je me demande quel est le pourcentage de cinématiques dans le jeu par rapport aux phases de jeu. Plus ça avance en plus, et plus c'est des cinématiques.
Ouais.
Mais à la fin, j'en avais marre. J'avais envie de jeter la PS3, qui était même pas la mienne parce qu'on me l'avait prêtée. En fait, j'avais décidé de refaire tous les Metal Gear, enfin de les faire d'ailleurs, en prévision du 5. Qui lui pour le coup est un chef-d'œuvre. J'ai fait le 4, j'en pouvais plus. J'avais fait donc Ground Zeroes, la démo, enfin le premier chapitre, le prologue du 5,
oui, vrai,
avant
vrai. Ouais.
avant le 4 et je repasse au 4. Donc déjà c'est dur parce qu'on revient au gameplay un peu Pac-Man de Metal Gear Solid 4 qui est extrêmement raide et tout ça. Et en plus tu joues quasiment pas, enfin tu joues mais il y a tellement de cinématiques pour te raconter les pires conneries jamais inventées par un homme quand il s'agit de faire un scénario de jeu vidéo. C'est vraiment, et je sais que je vais caresser dans le mauvais sens du poil pas mal de fans de Metal Gear, mais il faut reconnaître le 4 est affreux parce qu'il est pas autocontenu. C'est-à-dire que le 1, le 2, le 3 et le 5, ils racontent une histoire propre à leur propre jeu. Tu vois, le 3 notamment est extraordinaire à ce niveau-là parce que ça raconte les premières missions de Big Boss et ce qui s'est passé en Russie, tu vois. Là, le 4, ça part dans tous les sens. On va en Afghanistan, on va en Europe, on retourne dans le truc du premier Metal Gear Solid. Oh là là, ça m'a saoulé. Okay. Parce que je suis pas forcément si sensible au fanservice de Metal Gear. Et Metal Gear 4, c'est que du fanservice. Que du fanservice. Et moi, il m'avait vraiment saoulé. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment des bons passages, mais c'est gâché. Voilà, donc c'est pas le pire jeu non plus du monde. Hein. Il y a plein de gens qui ont apprécié Metal Gear 4. Je suis sûr qu'il y a des j'aurais pu citer un Sonic nul ou je sais pas quoi, mais bon, j'ai assez tapé sur Sonic ces derniers temps. Je sens que j'ai trop utilisé mon forfait tabassage de Sonic ces derniers jours. Donc je vais m'en garder pour la prochaine fois.
Patrick.
Alors moi, peut-être en disclaimer, je vais vous avouer un truc, ça reste entre nous. Hein. Moi, j'ai vraiment une fascination un peu morbide pour toutes les suites en vidéo, au cinéma. Vous savez qu'ils sortent en DTV, en direct ou vidéo. Donc moi, j'adore les Time Cop 2, American Psycho 2, Hitcher 2, Eden 2. Enfin voilà, j'ai vraiment cette appétence pour ces suites, souvent qui n'ont plus les mêmes acteurs, tout ça. Bon bref, pour vous dire, j'ai un certain terrain, une certaine déviance pour ces suites un peu cassées qui en même temps essaient de porter l'esprit d'un original. Donc comme ça, j'aurais pu vous parler de par exemple de Dino Crisis 3 qui se passe dans l'espace, qui n'a plus rien à voir avec le jeu originel. En même temps, je l'aime bien, donc je peux pas le citer parce qu'en même temps, j'adore ça, ce côté des dinos dans l'espace, j'adore. Donc non, j'aime bien Dino Crisis 3. Non, c'est vrai que c'est pas une question facile. Alors en cherchant avant, mais là, ça va parler vraiment aux anciens. Moi, j'avais un truc qui m'était resté là comme ça dans la gorge. C'était l'Aigle d'or. Vous vous rappelez de l'Aigle d'or? On en parle parfois ici.
Ouais.
L'Aigle d'or de 84 sur Oryx, sur Amstrad, etc.
Sur MO5.
Ben qu'on cite souvent parce que c'était vraiment un jeu qui a marqué les esprits, ce côté action, aventure, et tout était graphique à l'écran. Voilà, donc il y a eu l'Aigle d'Or, et il y a eu l'Aigle d'Or 2, le retour, et qui est sorti, que tout le monde a plus ou moins oublié, et tant mieux, qui est sorti genre 5-6 ans après, et qui était vraiment pas bien du tout, qui avait rien à voir du tout avec l'Aigle d'Or, en fait, qui avait plus du tout le même univers, qui avait plus rien, et qui n'avait plus l'auteur original, je crois, parce que c'est Louis-Marie Rock qui avait créé l'Aigle d'Or et puis d'autres jeux, et du coup, ça posait pas mal de problèmes, donc l'Aigle d'Or 2 pas bien, et par contre, on pouvait retrouver l'esprit de ces jeux-là dans les productions suivantes de Louis-Marie Rock, je pense au Fétiche Maya, etc., où on retrouve un petit peu la logique de ce qu'il avait imprimé dans l'Aigle d'Or, parce que je crois qu'il n'a pas bossé sur le deuxième, il me semble, il faudrait vérifier, mais là, voilà, pour moi, ça reste, ça date, hein. Ça date pas d'hier, mais voilà, ça reste un trauma.
Eh ben, écoute, c'est valide, hein.
Où j'ai
c'est
du mal valide. À prendre ce côté série Z, parce que c'était vraiment pas au niveau. Mais sinon, je vous recommande Dino Crisis 3, c'est vraiment un autre trip, mais bon, faut aimer, quoi.
Ok. Camille.
Alors moi, je commence par dire que j'ai eu connaissance de la question il y a très très peu de temps, là,
oui.
Dans la dernière heure, donc j'ai pas eu le temps de beaucoup réfléchir et j'ai pas eu le temps de beaucoup potasser. Les deux trucs auxquels je pense sont à l'opposé de l'échelle du temps, dans le genre totalement oubliable, alors que le premier avait cassé la baraque, il y a Super Mario Bros. 2, voilà.
Ah oui.
Problème.
Si on retourne dans le grand passé,
mais c'est marrant parce qu'il y a des gens qui l'adorent, hein, le Super Mario Bros.
C'est vrai.
Il est bien.
C'est pas un Mario, c'est autre chose.
Ouais. C'est Doki Doki Panic. Oui. C'est le skin d'un autre jeu Nintendo.
Ok. Ouais, c'est intéressant.
Non, mais après c'est legit, hein. Mais
c'était la période avec Zelda 2 aussi qui avait rien à voir avec le 1. Enfin, c'était la période des deux bizarres.
Et sur de l'autre côté de l'échelle du temps, j'avoue que le premier truc auquel j'ai pensé quand tu m'as dit la pire suite de jeux vidéo, j'avais envie de gueuler Pokémon Écarlate et Violet. c'est vraiment pas sympa et il le mérite pas du tout.
Il le mérite pas du tout,
mais il y a quand même un truc inédit parce que j'ai quand même joué à peu près à tous les Pokémon sur console qui existent. Enfin, les vrais, hein, pas les trucs de bataille. Mais c'est que c'est le premier où ça me fait chier de le reprendre. C'est le premier où je me force à le reprendre et c'est le premier où quand j'y joue, j'ai envie de jouer à autre chose. J'ai envie de ressortir
c'est
celui-là.
Pas bon, ça.
Pas bon signe.
Je t'en veux pas de spoiler l'épisode dès la bande-annonce, mais c'est.
Oh, ça va, t'as pas été si
c'est
dur.
Le teasing.
Voilà, c'est ça.
T'as pas été si dur avec le jeu.
Non,
il le mérite pas, c'est pour ça que je le dis.
Moi, pour ma part, dans le côté deux réponses, moi j'ai une question, j'ai une réponse un peu en absolu, parce que je pense qu'il y a un jeu qui mérite le statut de pire suite réelle quasiment en absolu, c'est Tomb Raider Angel of Darkness qui est pour moi un tel foutage de gueule sur une licence tellement puissante théoriquement, qui est en plus après une pause, je sais même pas où on a attendu combien d'années que ça sorte, c'était le premier Tomb Raider PS2, enfin il y avait tous les curseurs des attentes et la puissance de la licence et tout ça qui était, mais vraiment tout était au maximum, et ils sortent quand même la pire bouse qui soit. C'était pas fini, c'était horrible, c'était donc voilà, pour moi en absolu, je pense que Angel of Darkness mérite au moins d'être sur n'importe quel podium de n'importe qui sur cette question. C'était vraiment une vraie douleur. Et après, moi j'ai mon petite suite, c'est un peu ma réponse très très personnelle, c'est Siberia 2, parce que parce que j'avais vraiment adoré le premier Siberia, les aventures de Kate Walker, le côté quête initiatique, on savait pas où on allait, c'était quoi ce monde d'automates, c'était quoi cette Sibérie un peu fantasmée, limite steampunk, mais très étrange, et on savait pas où on allait, et on jouait cette Kate Walker, on savait pas où elle allait, elle avait quitté son taf, elle démissionnait pendant le jeu, en fait, elle quittait son taf pendant le jeu, quoi,
elle changeait de vie, quoi, enfin, ouais,
elle changeait de vie, et pour aller dans l'inconnu, et puis il y avait cette fin de Siberia, que je vais pas spoiler, mais qui se suffisait à elle-même, qui était hyper poétique, en fait, où elle partait comme ça, enfin voilà, il y avait une fin où elle prenait le train, elle s'en allait et tout, et c'était beau. Et dans Siberia 2, eh ben, elle descend du train, alors qu'on n'avait pas envie qu'elle descende du train, il n'y avait aucun sens à ce qu'elle descende de ce train, c'était une fin. En fait, ça casse toute la poésie de la fin de Siberia. Et ensuite, bah, on n'est plus dans une quête initiatique, faut aller trouver des mammouths. Et donc, tout l'univers hyper poétique du premier s'envole, mais se dissout totalement dans le jeu. Et du coup, en fait, on se retrouve juste avec un point and click old school, finalement proche du premier, mais sans sa poésie. Et du coup, voilà. En fait, je l'aime pas parce que il m'a un peu cassé mon premier Siberia que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Voilà. Donc, c'était pour moi, c'est Siberia 2. Voilà, et vous, chères auditrices et chers auditeurs, quelle est votre pire suite? N'hésitez pas à partager avec nous sur le Discord de Silence en Joue.
Salon. Je sens que je vais me faire taper.
Mais pas du tout. On est très bienveillants. Non, tout va bien, tout va bien. En tout cas, merci à tous les trois. Et vu que c'est la bande-annonce, on se retrouve, vous pouvez retrouver l'épisode de demain, vendredi, sur les internets, sur libération.fr et sur les internets. Ciao, ciao.
Tchuss.
Ciao.